finalisti, băi.
Une semaine d'actualité. Chantal Leroux.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour revivre les moments forts de la semaine à travers les reportages de la rédaction et des correspondants de RFI dans le monde. Nous irons de Milwaukee à Minsk en passant par Bamako. Et pour commenter l'actualité, un invité qui connaît bien les États-Unis. Bonjour Mathieu Magnodex.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de Mediapart à Washington et vous avez publié il y a quelques mois « Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains » aux éditions La Découverte. Comment Alexandria Ocasio-Cortez, jeune femme d'origine hispanique issue d'un milieu populaire, est-elle devenue en 2018, à 28 ans, la plus jeune élue du Congrès et le symbole du réveil de cette gauche américaine que vous racontez dans votre livre?
Bien, elle est devenue ce symbole de façon assez surprenante et immédiate par une victoire lors d'une primaire du Parti démocrate. Vous savez qu'aux États-Unis, bien évidemment, le système politique fonctionne par des primaires. Et elle a battu un baron du Parti démocrate, Joe Crowley, qui était une figure du parti élu depuis 20 ans, et à la surprise générale, elle l'a battu. Et on était dans un moment où l'opposition à Trump, mais particulièrement la gauche américaine, cherchait un visage, y compris parce que depuis l'élection de Donald Trump, il y a une ébullition de mouvements de l'activisme aux États-Unis dans toutes sortes de domaines. Et donc, elle est venue finalement cette victoire politique qui l'a propulsée au Congrès, puisque sa circonscription est très démocrate. C'est pas une circonscription républicaine. Elle est devenue, avec ce lien avec les mouvements sociaux, qui est vraiment sa marque de fabrique politique, elle est devenue finalement l'incarnation de la nouvelle gauche américaine. C'est vrai qu'en même temps, il y a Bernie Sanders qui est plus âgé, qui a 4 décennies de politique derrière lui, qui a d'ailleurs été le candidat de la gauche du parti à la dernière présidentielle. Mais d'une certaine façon, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est hispanique, elle représente davantage peut-être le pays, les États-Unis tel qu'il est en train de changer. Elle est venue à point nommé pour représenter ce grand réveil de la gauche américaine.
Alexandria Ocasio-Cortez, on l'appelle AOC en abrégé. Elle est belle, elle est télégénique, elle est brillante oratrice. Elle sait se défendre quand on l'attaque. Et les politiciens de l'establishment républicain, mais aussi démocrate, ne s'en sont pas privés. Pourquoi est-ce qu'elle dérange et séduit à la fois?
Je pense que ce qui dérange d'abord, c'est qu'elle porte dans l'arène politique un discours radical, en tout cas du point de vue des États-Unis. Peut-être qu'en France, ce serait un discours, on va dire, social-démocrate, ou en tout cas à gauche de ce qui se fait très clairement aux États-Unis dans le Parti démocrate depuis 40 ans. Donc elle porte d'abord ce discours dans l'arène politique, et donc ça dérange, parce que elle parle de largement domestiquer le capitalisme, elle parle d'une grande relance écologique qu'elle appelle le Green New Deal avec d'autres, pour véritablement relancer l'économie, mais sur des bases justes, qui évitent la catastrophe climatique, qui sont aussi inclusives, c'est-à-dire qui s'intéressent à ceux qui vont être le plus touchés par le réchauffement climatique, notamment ceux qui vivent sur les côtes, qui sont souvent des gens plus pauvres, ou les minorités raciales, qui peuvent être aussi les plus directement impactées par le changement climatique. Donc elle porte toutes ces problématiques dans l'arène politique, et les démocrates n'ont pas l'habitude que ça se passe comme ça depuis 40 ans. Les démocrates ont très peu parlé des conditions socio-économiques depuis 40 ans, y compris Barack Obama, quand il a été président. Ils n'ont pas véritablement changé la vie des gens, et donc elle propose un programme qui, c'est aussi l'assurance santé universelle pour tout le monde, donc des choses qui paraissent un peu folle, et qui ont été portées, c'est vrai, par Bernie Sanders dans ses 2 campagnes présidentielles. Et puis il y a aussi beaucoup de sexisme contre elle, c'est-à-dire que elle concentre véritablement une sorte de haine de beaucoup de gens qui ne supportent pas que ce visage d'une jeune Latina représente la gauche américaine. Donc pour toutes ces raisons, elle clive beaucoup, mais c'est aussi un de ses atouts principaux.
Est-ce que c'est l'élection de Donald Trump qui a suscité cette éclosion de ce que vous appelez les organizers? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un organizer?
Alors, un organizer, c'est au contraire d'un... Mon livre s'appelle « Les nouveaux activistes américains ». En sous-titre, c'est pour faire comprendre à un public français. Mais en fait, aux États-Unis, il y a une petite distinction qui est faite dans ces cercles-là entre l'activiste, c'est celui qui s'indigne un peu facilement, c'est la star qu'on voit sur les réseaux sociaux qui va dire « je combats pour telle cause », etc., aux organizers, qui sont vraiment des fourmis ouvrières, des gens qui construisent les mouvements, qui construisent des mouvements très locaux pour obtenir des choses, et donc qui mettent ensemble des gens qui sont par exemple impactés par des questions ayant trait au logement. Ils vont les mettre ensemble dans une salle, leur faire raconter toutes leurs histoires de galères, et progressivement, à travers ces récits, va émerger d'abord des gens qui vont se dire « Ah là là, j'ai les mêmes problèmes que toi », et qui vont ensuite accepter de rentrer ensemble dans un mouvement et de dire « Voilà ce qu'il nous faut ». Et donc, du coup, vont ensuite élaborer des campagnes et des stratégies pour faire pression sur les pouvoirs publics. Donc, ça peut être à l'échelle très locale et à l'échelle nationale. Il y a eu depuis une quinzaine d'années beaucoup de mouvements aux États-Unis, Occupy Wall Street au moment de la crise financière, Black Lives Matter à partir de 2014-2015. Mais à partir de l'élection de Trump, il y a eu une éclosion de tous les mouvements, tout simplement parce que Trump, au-delà du caractère sexiste du personnage, de son caractère odieux, d'un personnage odieux que reconnaissent d'ailleurs bien nombre de républicains, hein, qui peuvent être aussi tout à fait effarés par lui et effrayés, et il représente vraiment tous les symptômes de l'Amérique. Et il représente en gros toutes les injustices. Il a fait une politique véritablement, encore une fois, au-delà de ses tweets, il a fait une politique qui est manifestement très favorable aux plus riches. Il est dans le déni climatique. Et donc, il représente tous les symptômes, tous les problèmes des États-Unis. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience chez plein de gens qui les a activés politiquement. Et on l'a bien vu d'ailleurs récemment avec ces grands mouvements contre les violences policières.
Voilà, parce que le mouvement Black Lives Matter, qui a été réactivé par la mort atroce de George Floyd, voilà, mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, ce drame les a galvanisés.
Oui, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mouvement qui a... Black Lives Matter était un mouvement populaire, mais conduit par des Noirs, hein, en priorité. Et d'ailleurs, il se sentait parfois un peu seul, justement. Il tirait parfois les sonnettes d'alarme en disant, écoutez, ce qu'on dénonce, nous, oui, ce sont d'abord les brutalités contre les Noirs, parce que les Noirs sont proportionnellement beaucoup plus tués que les Blancs, statistiquement, hein, aux États-Unis. Donc, il dénonçait les biais racistes de la police, et il disait, écoutez, ça peut aussi vous concerner d'une certaine façon, peut-être moins, mais ça peut vous concerner parce que dans ce pays, la police a beaucoup de pouvoir, dans ce pays, les budgets municipaux sont littéralement grignoté par le poids de la police, c'est 40-50%. Donc il disait, voyez, avec les politiques, avec vos villes font moins de choses parce que les budgets de la police sont si importants. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres gens qui sont venus dans ces mouvements. Bien sûr, ça a été largement alimenté par la colère contre Trump, contre sa gestion du coronavirus, on en reparlera. Mais il y a eu là une agglutination de gens comme ça qui sont venus dans les rues, à la fois contre les violences policières, en solidarité quand ils n'étaient pas noirs aux victimes des violences policières, et de façon générale, contre le racisme, l'exclusion, et avec... pour beaucoup quand même de ces gens, des propositions politiques, quand ils ont des propositions politiques, qui sont quand même plus à gauche que ce que porte le Parti démocrate.
Mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que les organisateurs ne veulent plus seulement désormais faire du lobbying, des sit-ins, des campagnes médiatiques pour que les choses changent, ils veulent conquérir le pouvoir.
Oui, c'est en fait, en tout cas, dans une partie de ces organisateurs, parce qu'il y a une partie du monde
de l'activisme. Divisés,
voilà, bien sûr. Il y a des traditions différentes, il y a des gens qui considèrent que la politique n'a jamais changé la vie des gens et qui préfèrent agir localement, par exemple. Donc ça reste une proportion assez importante de ces organisateurs, et il y en a d'ailleurs dans ce livre, hein, qui eux théorisent plutôt le fait d'agir localement, de pas vouloir être un jour élu au Congrès ou de faire de grandes campagnes nationales. Mais il y a de plus en plus, et c'est ce qu'incarne aussi Alexandria Ocasio-Cortez, qui est vraiment l'incarnation de ce mouvement et qui dit toujours « je représente le mouvement social », c'est son idée de dire « il faut être capable de peser à l'extérieur du système politique, donc avec des actions, avec des campagnes, mais aussi à l'intérieur du système politique, parce que sinon on ne changera jamais rien. » Et la gauche américaine, comme beaucoup de gauches dans le monde, sont arrivées à un moment où ils disent « nous en avons assez de perdre en permanence ». Et donc pour arrêter de perdre, il faut commencer par vouloir gagner, et donc du coup de vouloir, pour ce qui les concerne aux États-Unis, construire un rapport de force au sein du Parti démocrate, faire élire des gens qui les représentent et qui leur correspondent et qui portent le programme qu'ils portent, donc plus à gauche que ce qu'a fait le Parti démocrate jusqu'à présent. Et cela passe par une longue bataille dont beaucoup savent qu'elle sera probablement longue, qu'elle va durer 10, 15, 20 ans, qu'elle sera fortement impactée par l'impératif, par la question de la catastrophe climatique, puisque nous savons tous que nous avons très peu d'années pour changer les choses. Il parie sur cette volonté, voilà, de renverser un petit peu le Parti démocrate traditionnel, mais ils savent qu'il faudra forcément, le système politique américain est fait d'une telle façon qu'il n'y a pas de place pour les troisièmes forces d'une certaine façon. Donc ils se disent, en tout cas pour ceux qui veulent agir à l'intérieur du système, eh bien, il faut prendre d'assaut le système.
On va revenir tout à l'heure à votre livre, Mathieu, mais à présent, on va dérouler ensemble l'actualité de la semaine, très américaine, puisque c'est lundi que s'est ouverte à Milwaukee la convention du Parti démocrate. Une convention virtuelle, pandémie oblige, sans flonflon ni applaudissements. Anne Corpet, notre correspondante à Washington, a suivi pour nous la première soirée. Oh,
Des jeunes de tout le pays qui chantent ensemble l'hymne national, mais chacun chez soi. Pas de foule en liesse, ni de ballons ou de confettis, mais une succession de clips vidéo, d'interventions en direct ou enregistrées, des Américains ordinaires, des élus du Parti démocrate et même des Républicains, dont deux anciens gouverneurs opposés au président. Tous martèlent un seul message, il faut s'unir et en finir avec Donald Trump. Un impératif pour le sénateur Bernie Sanders.
The future of our democracy is at stake. We must come together, defeat Donald Trump. The price of failure is just too great to imagine.
Donald Trump is the wrong president for our country.
Donald Trump est le mauvais président pour notre pays. Il est manifestement dépassé, enchaîne Michelle Obama. L'ancienne première dame, l'une des femmes les plus populaires d'Amérique, vante les qualités du candidat démocrate.
I know Joe. He is a profoundly...
Le Parti démocrate fait la démonstration de son unité face à Donald Trump. Il oppose la décence, l'empathie de son candidat aux inconstances du président, quitte à effrayer les électeurs pour mieux les mobiliser. Anne Corpet, Washington, RFI.
Alors si Joe Biden a reçu logiquement le soutien de Michelle Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter ou encore Bernie Sanders, il a trouvé des partisans dans le camp républicain, à l'image du général Colin Powell, secrétaire d'État sous George Bush. Colin Powell qui a pris la parole mardi, toujours lors de la convention démocrate, par vidéo interposée.
Les valeurs que j'ai acquises en grandissant dans le Bronx et dans l'armée sont les mêmes que celles que les parents de Joe Biden lui ont transmises. Je soutiens Joe Biden à la présidence des États-Unis parce que ses valeurs le définissent toujours. Notre pays a besoin d'un commandant en chef qui prend soin de nos troupes comme il prendrait soin de sa propre famille. Et Joe Biden le sait, cela vient de l'expérience qu'il partage avec des millions de familles de militaires qui envoient leurs fils à la guerre en priant Dieu qu'il reviendra sain et sauf. Avec Joe Biden à la Maison-Blanche, il n'y a aucun doute qu'il sera aux côtés de nos alliés et qu'il se dressera contre nos adversaires. Jamais l'inverse. Il fera confiance à nos diplomates et à nos services de renseignement, ne cédera pas aux flatteries des dictateurs. Je crois toujours que dans nos cœurs, nous sommes la même Amérique qui a conduit mes parents jusqu'à ses rivages. Une Amérique qui inspire la liberté à travers le monde. C'est l'Amérique que dirigera Joe Biden en tant que président.
Mathieu Magnodex, est-ce que ce ralliement de figures républicaines, Colin Powell, mais aussi l'ancien gouverneur de l'Ohio, John Kasich, peut influencer l'électeur de base républicain? John Kasich a déclaré lors de la convention « Je place mon pays au-dessus de mon parti ». Est-ce que c'est un message que peuvent entendre les supporters très nationalistes de Trump?
Oui, sans doute une partie de l'électorat républicain, ce qu'on appelle l'électorat modéré, dont on se demande s'il existe toujours un peu aux États-Unis, il existe certainement dans les banlieues, notamment des grandes banlieues blanches, notamment aux États-Unis. Il est évident qu'il y a une partie de l'électorat républicain, ou de gens plutôt conservateurs, en tout cas, qui sont horrifiés par la présidence Trump, qui sont aussi horrifiés par l'image que Trump renvoie aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que cet électorat conservateur américain, il est très attaché à l'image des États-Unis, à la grandeur des États-Unis, ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. Et d'ailleurs, c'est le discours de Colin Powell, ou Colin Powell qui est l'homme, on se rappelle, qui a vendu finalement à la tribune de l'ONU les armes de destruction massive, soi-disant, en Irak pour justifier.
C'est pas son fait d'armes le plus brillant.
Voilà, donc il a fait d'autres choses, mais enfin il a fait ça aussi, donc sous l'administration George W. Bush. Et il le dit, il faut restaurer le leadership américain, il faut restaurer les alliances avec nos partenaires traditionnels, il faut faire confiance aux services de renseignement et à nos militaires. Il faut d'ailleurs voir que le discours de Joe Biden, si on regarde bien cette cérémonie d'investiture, s'est terminé par un hommage aux troupes américaines. Donc on est vraiment dans cette logique de vanter les valeurs de la grande Amérique, qui a des choses à apprendre au monde et puis qui même militairement reste dominante. Donc ça, pour cette partie-là, peut-être de l'argumentaire, peut séduire un certain nombre de républicains. Il faut quand même pas oublier que l'électorat républicain a été largement radicalisé ces 10 dernières années et encore plus par Donald Trump, qu'on a aujourd'hui, je pense, pour les voir souvent quand je vais en reportage, des gens qui peuvent être à la fois charmants mais qui sont vraiment d'extrême droite, qui racialisent beaucoup de questions, qui ont l'impression de vivre dans un monde menacé, dans un monde où vraiment leur existence même est menacée par le changement démographique, par les soi-disant l'insécurité, enfin voilà, donc ils se vivent vraiment dans un monde menacé. Et Donald Trump réussit parfaitement toujours à les mobiliser, à les galvaniser. Ce sont les mêmes en ce moment qui disent que il n'y a pas besoin de masques, que la pandémie n'existe pas quasiment. Donc il y a une forme de réalité parallèle. Et pour ça, la base électorale de Donald Trump, on aurait tort de croire qu'elle n'est pas solide.
Alors Joe Biden a été officiellement investi mardi par la majorité des députés de son parti pour affronter Donald Trump donc le 3 novembre. D'ici là, son grand défi va être de rassembler tous les démocrates autour de lui, même les plus à gauche, les plus progressistes, comme Alexandria Ocasio-Cortez.
Dans une période où des millions de personnes aux États-Unis attendent des solutions concrètes, systémiques aux crises que nous vivons, expulsion massive, chômage, absence de couverture maladie, je soutiens la nomination de Bernie Sanders du Vermont pour la présidence des États-Unis d'Amérique.
Alors, Alexandria Ocasio-Cortez s'est ensuite dépêchée d'assurer sur Twitter qu'elle voterait bien Biden. Mathieu Magnodex, pourquoi a-t-elle prononcé cette phrase de soutien à Bernie Sanders alors qu'il n'est plus dans la course?
Oui, alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais en fait, c'est lié aux règles d'organisation de la primaire démocrate. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, le Parti démocrate n'a même pas invité Alexandria Ocasio-Cortez, qui pourtant représente vraiment une partie importante et la tête de proue de la gauche américaine. Et Bernie Sanders a fait des scores très importants à la primaire.
Et on lui a donné seulement une minute pour s'exprimer.
Et donc, non, en fait, c'est Bernie Sanders qui a dit, du coup, parce qu'il y a quelque chose d'un peu procédural qui dit qu'en fait, un candidat comme Sanders, qui est le candidat qui a perdu dans la primaire, peut quand même avoir des gens qui parlent pour le présenter en fait à la convention. Du coup, Sanders a dit, ok, alors il y aura deux personnes qui parleront en mon nom. Ce sera un syndicaliste, s'appelle Bob King, et Alexandria Ocasio-Cortez. Et donc, elle était un peu obligée de, parce que c'était la procédure qui voulait ça, de dire je soutiens Bernie Sanders. Mais ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que le Parti démocrate n'avait même pas prévu d'espace pour Alexandria Ocasio-Cortez dans sa convention. Et c'est intéressant parce que si on écoute le discours d'Alexandria Ocasio-Cortez comme on l'a fait ici, je trouve moi qu'il y a beaucoup plus de, sans juger hein, du fond, qu'il y a beaucoup plus de contenu politique dans ce qu'elle dit que dans tout ce que dit Joe Biden et Kamala Harris en quasiment une heure de discours. C'est-à-dire que c'est aussi une autre qualité d'Alexandria Ocasio-Cortez, elle met toujours de la politique dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit, et en une minute, on a un vrai programme de la gauche américaine.
Et pas seulement des propos anti-Trump.
Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que Donald Trump a tenté et réussi de faire de la présidentielle en 2016 un référendum contre Hillary Clinton, là, l'establishment démocrate, la direction du Parti démocrate, tente de faire un référendum contre Trump. Donc Joe Biden, finalement, parle très peu de politique publique. Il nous parle juste, il est cet Uncle Joe, hein, l'oncle Joe rassurant. Il a toujours été son personnage un petit peu public, même s'il a fait beaucoup d'erreurs politiques dans sa vie, qu'il a d'ailleurs reconnu. Et il veut être cette personne rassurante qui va réconcilier les Américains, stop à la division, ramenons de la joie dans la pénombre. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour mobiliser énormément de gens, et ce sera la question des prochaines semaines.
Mais justement, le centriste Biden, est-ce qu'il va devoir faire prendre à sa campagne un virage à gauche s'il veut rassembler tous les démocrates? Parce que les jeunes activistes que vous avez rencontrés pour votre livre, j'imagine qu'ils vont voter Biden pour se débarrasser de Trump, mais ce sera pas le choix du cœur,
c'est le choix
de la raison.
Et puis c'est ça le problème, c'est que autour de Joe Biden, il y a une candidature pour beaucoup de gens de raison, mais les candidatures de raison, c'est toujours problématique, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui le jour du vote peuvent dire bon bah en fait c'est pas passionnant, je vais pas aller voter, et notamment pour les jeunes. Alors ce que Biden a essayé de mettre en scène dans les derniers mois, c'est un rapprochement un peu avec l'aile gauche, notamment Ocasio-Cortez sur les questions climatiques,
et
avec
voilà,
Sanders.
Voilà, elle est l'avocate du Green New Deal au sein de l'équipe de campagne.
Voilà,
de Biden.
Donc il a un peu intégré, ils ont un peu essayer de trouver un terrain d'accord, mais aujourd'hui on voit des propos de conseillers par exemple de Joe Biden qui disent mais attendez, ce sera très dur quand on va arriver au gouvernement, Donald Trump a vidé les caisses, donc on n'aura pas la possibilité de faire de grandes politiques de changement, donc ils commencent déjà à dire ça. Donc si ce discours-là prend de l'essor dans les prochaines semaines, il va falloir beaucoup d'imagination au camp Biden pour quand même motiver les gens. Donc c'est vrai que c'est facile en ce moment de surfer sur le ressentiment anti-Trump parce qu'il est extrêmement profond aux États-Unis, même de gens très à gauche. Et beaucoup voteront Biden parce que c'est Trump en face et que c'est quand même quelque chose de politiquement très difficile et qu'ils ont peur de ce qui pourrait venir par la suite, mais c'est quand même pas extrêmement galvanisant.
Alors mercredi, au troisième jour de la convention démocrate, c'est Barack Obama et Kamala Harris qui ont étrié Donald Trump. Barack Obama a notamment accusé le locataire de la Maison-Blanche de mettre en péril la démocratie, une attaque frontale inédite de la part de l'ancien président.
Je ne m'attendais pas à ce que mon successeur partage ma vision ou poursuive ma politique. En revanche, j'avais espéré, pour le bien de notre pays, que Donald Trump pourrait montrer un certain intérêt à prendre le travail au sérieux, qu'il pourrait en venir à sentir le poids du mandat et découvrir un certain respect pour la démocratie qui lui avait été confiée. Mais il ne l'a jamais fait. Il n'a montré aucun intérêt à faire le travail, aucun intérêt à trouver un terrain d'entente, aucun intérêt à utiliser le pouvoir impressionnant de son mandat pour aider qui que ce soit d'autre que lui-même et ses amis. Aucun intérêt à traiter la présidence autrement qu'une énième émission de télé-réalité qu'il utilise pour attirer l'attention dont il a besoin. Donald Trump n'a pas grandi avec son mandat parce qu'il en est incapable. Les emplois disparus, nos pires instincts libérés, notre fière réputation à travers le monde gravement endommagée et nos institutions démocratiques menacées comme jamais auparavant.
Mathieu Magnodex, mercredi, Kamala Harris est devenue la première femme de couleur à figurer sur un ticket présidentiel américain. Est-ce que la sénatrice de Californie, qui est de mère indienne et de père jamaïcain, est le meilleur atout de Joe Biden pour gagner?
Alors d'abord, ce qu'on sait depuis quelques élections, c'est que en gros, le candidat à la vice-présidence change assez peu les choses. Simplement, ça teinte un peu la candidature, ça teinte un peu le ticket présidentiel, comme on dit, et ça permet de parler peut-être à d'autres personnes, et notamment pour ce qui concerne Kamala Harris, les femmes noires américaines qui constituent aujourd'hui l'électorat le plus sûr du Parti démocrate. C'est-à-dire que déjà en 2016, elles ont voté à 96%, 97% pour Hillary Clinton, parce que souvent dans leur vie quotidienne, elles ont des expériences de vie qui font que les propositions des républicains leur paraissent très éloignées finalement de leur vie quotidienne.
Mais est-ce que Kamala Harris pourrait séduire les femmes blanches aussi?
Oui, je pense, notamment en raison de sa modération politique. En fait, Kamala Harris, c'est quelqu'un qui...
Oui, parce qu'elle, c'est pas l'aile gauche du Parti démocrate.
Pas du tout, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement centriste. Elle a été procureure générale de Californie et elle a défendu à cette époque-là, avant Black Lives Matter, des positions assez raides en matière sécuritaire, hein, notamment à s'opposer à des exemptions de peine de mort pour certaines personnes. Elle a défendu notamment un cas qui est très emblématique, où elle a poursuivi de sa vindicte une personne abusée à tort d'abus sexuels et la personne est toujours en prison aujourd'hui. C'est un dossier qui est en train de ressortir. Elle a très peu agi, finalement, sinon à la marge, de façon un peu cosmétique, contre la violence extrême de certains services de police aux États-Unis, une violence raciste très claire. Moi, j'étais en Californie, il y avait les polices californiennes locales sont extrêmement, fonctionnent vraiment parfois comme des services de cow-boys. Et donc, elle est assez sécuritaire. Donc, pour l'électorat un peu modéré, ça veut dire qu'elle est une candidate un peu de l'ordre. Et donc, ça peut-être rassurer certains électeurs, en effet, plus modérés, plus centristes.
Alors, Joe Biden a prononcé jeudi soir le discours de clôture de la convention. Il a promis de remettre les États-Unis dans la lumière après les ténèbres de l'ère Trump. Vous pensez qu'il a rassuré, qu'il a convaincu tous ceux qui doutaient, même dans les rangs démocrates, de sa capacité à endosser le costume de président?
Alors visiblement, il a travaillé, visiblement, il fait attention, il fait moins de gaffe qu'il faisait d'ailleurs dans ses campagnes présidentielles précédentes, parce qu'il a quand même été déjà deux fois candidat à la présidentielle. Il fait un peu attention, il essaye d'incarner véritablement ce personnage rassembleur. Encore une fois, c'est pas un discours qui est extrêmement galvanisant. Je trouve que autant Barack Obama que d'ailleurs Joe Biden ont fait des discours finalement de commentateurs presque. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont dit dans leur discours, c'est ce que tout le monde raconte sur tout ce que vous lisez dans la presse américaine, y compris très bien informé, sur la présidence chaotique de Donald Trump, sur le fait qu'il n'exerce pas de leadership, qu'il ne fait rien, il ne travaille pas en fait. Donc tout ça, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Peut-être qu'une candidature présidentielle, c'est un peu plus que du commentaire. Et alors, il a essayé de donner cette vision d'espoir, de futur, quelque part. Donc, c'est important. Mais ce n'est pas un discours qui est extrêmement convaincant, en tout cas, de mon point de vue.
Sept jours dans le monde.
Je ne peux pas rester indifférente. Je ne comprends pas les personnes qui restent chez elles et regardent la télévision alors qu'un changement de régime est en marche. Nous sommes en train de changer l'histoire. Le sang a coulé. Le peuple n'oubliera jamais ça. C'est pour ça que je suis venue ici, pour apporter mon soutien tout d'abord à ceux qui ont été blessés dans les centres de rétention, ceux qui ont été tués, leurs familles. J'ai l'obligation d'être ici. C'est mon devoir.
Une manifestante parmi des centaines de milliers d'autres dimanche à Minsk en Biélorussie. Une semaine semaines après la réélection jugée frauduleuse d'Alexandre Loukachenko, la population est descendue en masse dans les rues le week-end dernier pour réclamer le départ du président au pouvoir depuis 26 ans. Un président qui s'est fait huer lundi par les ouvriers d'une usine en grève et qui se retrouve de plus en plus isolé. Mercredi, les 27 réunis en sommet virtuel extraordinaire ont apporté leur soutien aux manifestants. Bruxelles, Johanna Hochstein.
Priorité pour les Européens, soutenir le peuple biélorusse. La Commission européenne a donc annoncé une enveloppe de 53 millions d'euros destinée à la société civile, aux médias indépendants, aux services hospitaliers touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. Il ne s'agit pas d'argent frais, mais de fonds qui étaient destinés préalablement au gouvernement. Un gouvernement que les Européens ne reconnaissent plus, comme l'a dit très fermement le président du Conseil européen, Charles Michel.
Stop à la violence. Nous ne reconnaissons pas les résultats des élections présentés par les autorités. Nous appelons à un dialogue national inclusif.
Une transition politique donc, voilà ce que souhaitent les Européens, sans pour autant appeler à la tenue de nouvelles élections. C'est aux Biélorusses de décider de leur avenir, a insisté Charles Michel, ni aux Européens ni aux Russes. S'agissant des sanctions, un nombre substantiel de dirigeants du régime d'Alexandre Loukachenko seront ciblés, a précisé le président du Conseil européen, des dirigeants biélorusses responsables de la répression et de la falsification des résultats électoraux.
Mathieu Magnodex, Alexandre Loukachenko a depuis donné l'ordre aux forces de l'ordre de briser tout nouveau trouble. Les contestataires risquent dorénavant la prison. Est-ce que cela va suffire à stopper cette vague de colère et de ras-le-bol qui traverse le pays depuis maintenant 2 semaines? C'est toute la question.
Ouais, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la grande mobilisation en fait dans ce pays.
On s'attendait pas seulement à Minsk, un peu partout
dans le pays. Tout le pays, on s'attendait pas forcément à ça. Et moi, ce qui m'a encore plus frappé, c'est finalement le fait d'abord que ce mouvement soit porté. Les principales leaders de l'opposition sont des femmes, notamment Svetlana Tikhanovskaya qui est en Lituanie. À côté de la Pologne, où il y a aussi beaucoup de mobilisation sur les questions des LGBT contre l'avortement. Donc on voit bien qu'il y a, de la même façon que on l'a un peu vu aux États-Unis après, là, évidemment ce sont deux univers complètement différents, mais il y a une mobilisation des femmes contre Trump très importante. Ben là, on voit bien que les femmes sont au fer de lance des mouvements, et ça c'est particulièrement intéressant, dans une alliance aussi avec les grévistes, avec le monde du travail. Et ça m'a beaucoup frappé dans ce pays.
Alors on part pour le Proche-Orient à présent. Après 15 ans d'enquête, le tribunal spécial pour le Liban a rendu mardi un verdict en demi-teinte dans le procès de l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. C'était en février 2005. Sur les 4 hommes jugés par contumace et tous membres présumés du Hezbollah, un seul, Salim Ayache, a été reconnu coupable. Les 3 autres ont été acquittés faute de preuves. À La Haye pour RFI, Stéphanie Maupin.
Les 3 acquittés étaient impliqués dans la partie la plus infime de l'attaque, la fausse revendication de l'attentat destiné à brouiller les pistes, selon les juges. Pour le reste, ils ont reconnu le rôle de Salim Ayache, le chef des opérations, membre du Hezbollah, tout comme Mustafa Badreddine, mais ce dernier est mort 4 ans avant le verdict. Les juges expliquent ne pas avoir vu la preuve de l'implication de la direction du Hezbollah dans l'attentat. Quant à la Syrie, il n'y a pas de preuve directe, mais une succession d'événements qui pointent vers Damas. Dans la bousculade juste après le verdict, Saad Hariri a néanmoins salué le travail du tribunal.
Je crois que la crédibilité de ce tribunal, c'est que tout le monde disait que c'est un tribunal politique qui essaye de mettre quelques gens dans un coin. Ce tribunal a montré une vérité et une crédibilité très grande pour le Liban.
Même impression pour l'avocate des victimes qui estime que le verdict apporte une part de vérité. Les juges ont aussi lancé un appel aux autorités libanaises à indemniser les victimes. Théoriquement, le jugement du tribunal peut être porté devant la justice libanaise pour obtenir des réparations.
Mathieu Magnodex, 15 ans d'enquête, 800 millions d'euros dépensés pour un verdict qui laisse dubitatif. Les commanditaires de l'attentat peuvent continuer à dormir sur leurs 2 oreilles et le Hezbollah ne livrera jamais le prévenu reconnu coupable par le TSL.
Oui, c'est une des tragédies du Liban, et puis qui s'ajoute à évidemment cette grande tragédie qu'on a vue dans le port de Beyrouth. Moi, enfin, comme beaucoup de gens, j'ai été extrêmement touché par ça, ému au cœur de l'été. Finalement, on est toujours dans cette situation où dans un pays où personne n'est responsable, quoi, d'une certaine façon. Et là, on le voit encore avec cette tragédie du port de Beyrouth. En revanche, ce qui est intéressant, et là encore, j'y vois des échos avec cette question de la mobilisation et de la dynamique de la société. Ce qu'on voit, c'est que même si toutes les élites politiques finalement font défaut, ne sont pas là, se cachent finalement par rapport à leurs responsabilités, la société, elle s'organise et toute l'aide qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est fait par la société. Alors, je trouve que dans plein de sociétés différentes dans le monde actuel, cette question-là est majeure. C'est-à-dire, c'est l'organisation de la société qui peut nous permettre, s'il y a une solution, si on peut s'en sortir, ce sera l'organisation de la société qui va le permettre.
Voilà, il y a des passerelles entre les États-Unis, exactement, la Biélorussie et le Liban. On revient aux États-Unis avec l'arrestation jeudi de Steve Bannon, l'ancien stratège du président Trump, est accusé par la justice américaine d'avoir détourné des centaines de milliers de dollars collectés pour la construction du mur anti-immigration avec le Mexique. À Los Angeles pour RFI, Eric Desalves.
Il est finalement sorti libre du tribunal de Manhattan, tout sourire, malgré le paiement d'une caution de 5 millions de dollars et sa comparution menotte au poignet. Steve Bannon est accusé d'avoir escroqué le cœur de la base politique de Donald Trump. Le célèbre gourou de l'extrême droite américaine aurait détourné 1 million de dollars de dons à travers une société écran pour financer, selon la justice fédérale, son luxueux train de vie, voyage, hôtel, voiture de luxe. Arrêté au petit matin sur le yacht d'un homme d'affaires chinois, Steve Bannon est poursuivi avec 3 autres organisateurs de la campagne collaborative We Build the Wall, nous construisons le mur, tous se présenter comme des patriotes bénévoles. Au total, sur GoFundMe, ils ont récolté 25 millions de dollars, un argent censé financer la construction du mur anti-immigration de Donald Trump le long de la frontière mexicaine au moment où le Congrès refusait de débloquer les fonds demandés. Le propre fils du président a participé à cette collecte et en avait même largement fait la promotion sur les réseaux sociaux. C'est une triste affaire, réagit Donald Trump en tentant de prendre ses distances avec son ancien conseiller. Steve Bannon est le 9e de ses proches collaborateurs à être inculpé par la justice américaine.
Mathieu Magnodex, c'est une nouvelle épine dans le pied de Trump à quelques semaines de la présidentielle.
Oui, alors Alexandria Ocasio-Cortez, elle a eu la bonne formule sur Twitter il y a quelques heures, ce qui était de dire finalement il nous a pourri la vie depuis 3 ans, Steve Bannon, l'idéologue de Donald Trump, et il tombe pour une histoire d'arnaque. Et en fait, ça révèle à la fois les deux choses. Ça révèle comment Steve Bannon, donc cet idéologue de l'extrême droite américaine, qui a théoriser aussi ce que fait Donald Trump tous les jours, c'est-à-dire d'occuper les médias avec Twitter tout le temps, de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour que l'ensemble des commentateurs en parlent tout le temps et donc pour oublier le reste. Ça c'est vraiment la stratégie de Steve Bannon, il a appris ça à Donald Trump, et puis ça dit aussi la médiocrité de ces gens-là, la médiocrité du monde de Trump. Donald Trump lui-même n'est pas le grand milliardaire qui a tout réussi en affaires comme il le dit. Il est quelqu'un qui a bâti des montages complètement absurdes et qui veut même pas révéler ses déclarations fiscales parce que ce serait probablement très problématique pour lui.
Pour votre livre Génération Ocasio-Cortez, Mathieu Magnodex, vous avez rencontré aussi des anciens de la gauche américaine, notamment Frances Fox Piven, une octogénaire, citée comme inspiratrice du bouillonnement militant actuel. Elle regarde se déployer avec délectation, c'est ce que vous écrivez, ce moment de mouvement au pluriel, mais elle déplore qu'il n'ait pas donné lieu à un grand soulèvement. Est-ce que c'est pas ça le problème? Des mouvements éparpillés qui défendent chacun leurs intérêts, les noirs défendent les noirs, les femmes défendent les femmes, les gays défendent les gays, les LGBT défendent les LGBT. Est-ce que la segmentation de la mobilisation ne nuit pas à la force, à l'efficacité de la contestation?
Alors, d'abord, c'est intéressant parce que j'ai reçu récemment Frances Fox Piven pour Mediapart dans une émission et en parlant du grand mouvement de mobilisation qu'il y a eu contre les violences policières et le racisme à partir de la mort de George Floyd en mai, donc tout ce mouvement qui s'est déployé en juillet, qui continue encore aujourd'hui dans des villes comme Portland, elle m'a dit, ah ben voilà, là c'est le mouvement que j'attendais depuis très longtemps. Donc, il y a d'abord une montée en puissance de ces mouvements-là. Et sur l'autre aspect de la question, qui est tout à fait intéressant, vous avez raison d'aborder, les organisateurs auxquels j'ai parlé, les activistes auxquels j'ai parlé sont vraiment conscients que justement, ce n'est pas en segmentant la société qu'on va faire avancer les choses, qu'au contraire, il faut créer des alliances entre les différents mouvements, mais que là où c'est important, c'est que par exemple, ils disent tous, notamment dans Black Lives Matter, c'est important que les Noirs prennent en main leur destin. C'est nous, en tant que Noirs, qui avons à dire comment nous subissons les violences policières, pourquoi c'est dur pour nous. Nous avons d'abord à nous exprimer là-dessus, à créer des campagnes et de la mobilisation là-dessus, et ensuite on peut créer des alliances. Mais c'est pas à des gens qui ne vivent pas notre expérience de nous dire comment faire. Et là, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire on part d'abord de l'expérience des gens, et ensuite on crée des alliances dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est intéressant... Les gens qui ont manifesté contre les violences policières, là, récemment, après la mort de George Floyd, avaient aussi à cœur de défendre la question du climat, de prévenir contre la catastrophe climatique. Ils défendent aussi la démocratie qui est menacée aux États-Unis. Et ils défendent aussi, par exemple, les questions LGBT. Donc, je veux dire, c'est toutes ces questions mêlées ensemble. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis Alexandria Ocasio-Cortez en effigie sur ce livre. Alexandria Ocasio-Cortez l'articule très bien, c'est-à-dire elle dit que de la même façon qu'on l'a dit tout à l'heure pour les Libanais, pour l'opposition libanaise, c'est tous ensemble qu'on va y arriver, c'est-à-dire qu'il faut que les mouvements qui germent soient inclusifs, le plus inclusif possible, et représentent une partie la plus importante de la société pour porter.
Sept jours en Afrique.
Un coup d'État sans violence au Mali. Il est 3h30 à Bamako dans la nuit de mardi à mercredi. Le colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole des mutins qui ont arrêté un peu plus tôt le président Ibeka et son premier ministre Boubou Cissé, prend la parole à la télévision nationale.
Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
Trois heures plus tôt, le président Ibrahim Boubacar Keïta était apparu lui aussi à la télévision pour annoncer depuis le camp de Kati où l'avaient emmené les militaires qu'il préférait démissionner pour éviter que le sang ne coule. Si le coup d'État a suscité un concert de condamnations, Union africaine, CDAO, Union européenne, ONU, France, l'opposition malienne, elle, s'est réjouie du changement. Taïrouba, membre du M5 RFP.
Je suis très 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 enchanté, ce n'est que la fin d'un régime de 7 ans de calamité, de chaos dans lequel M. Ibrahim Boubacar Keïta nous a tous plongés. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un nouveau Mali.
Et l'opposition malienne s'est dit prête à travailler avec les militaires à la transition politique civile promise par le Comité national pour le salut du peuple, présidé par le colonel Goïta. Mathieu Magnodex, que vous inspire ce coup d'État qui embarrasse la France?
Ouais, ça m'inspire deux choses. La première, c'est qu'il y a eu des grandes mobilisations au Mali depuis juin, en juillet, qu'on a un peu oublié depuis, mais contre Ibeka, contre cette présidence. Il dénonçait la corruption de ce système, la situation économique et sociale, la situation militaire extrêmement dégradée, aussi des violations des droits de l'homme, donc il y a une colère importante. Bon, la deuxième chose que ça m'inspire, c'est que il faudra nécessairement, on le fait beaucoup à Mediapart et vous le faites beaucoup à RFI, et je pense qu'il plus de médias devraient s'y intéresser. Il faut questionner sans cesse cette question de l'engagement de la France au Mali, le soutien aussi à ce président Ibeka. La situation évidemment là-bas est très compliquée, mais finalement il y a cette espèce d'idée que on soutient forcément tout ce que fait la France là-bas, dans l'opinion publique française. En tout cas, c'est une question un peu annexe, et c'est une question pourtant extrêmement centrale. Il y a quand même 5000 soldats français là-bas. C'est un peu une des guerres oubliées de la France quand même.
7 jours en France.
L'épidémie de Covid-19 repartirait-elle en France? Les nouveaux cas de contamination se multiplient, près de 5000 en une semaine. Les autorités s'inquiètent. Le masque sera obligatoire dans les collèges et lycées à la rentrée. Idem dans les entreprises. Les précisions de David Bachet.
Salle de réunion, open space, couloir, bureau partagé, vestiaire, aucun recoin n'est oublié. Le port du masque sera obligatoire à partir du 1er septembre pour tous les employés dès lors qu'ils seront sur leur lieu de travail dans un espace clos. Unique exception, de bon sens, une personne seule dans une pièce n'y sera pas contrainte. Et deux personnes seulement dans un espace très vaste. Et s'il y a des vitres en plexiglas dans le bureau, syndicats et patronats souhaitent pouvoir adapter cette règle, présentée par le gouvernement comme systématique. Le Haut Conseil de la Santé publique pourrait donc être sollicité pour envisager d'éventuelles conditions d'adaptation. Le ministère du Travail précise qu'il revient à l'employeur de fournir les masques à son personnel et que des contrôles pourront être menés par l'inspection du travail. En cas de manquement, l'employeur s'expose à des poursuites judiciaires. Les gestes barrières, la distanciation d'un mètre, l'usage de gel hydroalcoolique restent d'actualité. Enfin, le télétravail reste vivement recommandé dans tous les cas où il est possible. Les autorités laissent cependant au chef d'entreprise le soin de décider d'y recourir ou non.
Christophe Girard, ex-adjoint d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, visé par une enquête préliminaire pour viol, enquête ouverte par le parquet au lendemain d'un témoignage publié par le New York Times. L'homme qui porte les accusations a aujourd'hui 46 ans. Les faits remonteraient aux années 90, Alexis Bédu.
10 ans de relations abusives, Anis Maïd, l'accusateur de Christophe Girard, a raconté ce qu'il aurait subi au journal américain le New York Times. Il a décrit son histoire avec l'ex-adjoint à la culture de la ville de Paris. Leur rencontre à l'été 1989 en Tunisie alors qu'il n'avait que 15 ans. La première agression sexuelle lors d'un voyage aux États-Unis un an plus tard. Des rapports sexuels forcés qu'il aurait subi une vingtaine de fois au total. Anis Maïd raconte qu'en échange, il était parfois employé comme domestique par Christophe Girard et qu'il obtenait du travail. Certains faits dénoncés pourraient être prescrits. Ce sont en tout cas des accusations graves et sans fondement, selon Christophe Girard, qui a l'intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Adjointe à la mairie de Paris depuis 19 ans, l'homme politique avait été poussé à la démission il y a un mois. En cause, ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie.
Mathieu Magnodex, bien évidemment, il faut rappeler la présomption d'innocence, mais ces affaires sont bien embarrassantes pour la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Ouais, en fait, c'est intéressant. Dans Mediapart, nous avions documenté dès le début de l'année les liens de Christophe Girard avec l'écrivain Gabriel Matzneff, dont on connaît les écrits, qui s'est vanté lui-même d'être pédophile et de faire du tourisme sexuel. Il l'a écrit dans ses livres et nous avions documenté précisément les liens qui sont des liens de connaissance, qui sont des liens de il y a plein de choses qui étayent ce dossier. Et tout ce qui s'est passé, c'est que deux nouvelles élues écologistes, Alice Coffin et Raphaël Rémy-Leleu, lors d'une manifestation, ont rappelé simplement à la maire de Paris, Anne Hidalgo, ces liens. Et donc, en tant qu'activiste féministe, on dit ce n'est pas possible, au nom des victimes, d'une certaine façon, ce n'est pas possible que Christophe Girard, alors que des faits sont documentés de proximité avec quelqu'un qui est... manifestement un pédocriminel, qu'il soit toujours adjoint à la culture. Et moi, ce qui me frappe, c'est la cécité politique, c'est la réponse politique à cette interpellation, qui est pour le coup une interpellation d'activiste, hein, qui est une interpellation de rendre des comptes, que les puissants rendent des comptes d'une certaine façon. C'est assez sain, en fait, en démocratie. Et la réponse a été finalement une fin de non-recevoir totale. Et maintenant que la justice ouvre une enquête préliminaire, alors Christophe Girard est suspendu de la majorité par la même Anne Hidalgo qui avait traité ses militants d'hystérique, alors qu'elle se défend d'être une grande féministe. Donc, en termes de gestion politique, c'est extrêmement problématique pour la maire de Paris, et surtout de façon plus large, ça nous montre que la politique en France, que les politiques, les élus en France ont beaucoup de mal avec l'activisme, avec des gens qui finalement viennent de la société civile et qui leur demandent un petit peu, oui, de rendre des comptes, parce que nos élus sont là pour rendre des comptes. Et pour moi, cette histoire a vraiment illustré ça.
Un mot de football, je sais que ce n'est pas trop votre tasse de thé, Mathieu Magnodex. Soirée de rêve mardi à Lisbonne pour le PSG, pour la première fois dans l'histoire du club. Les Parisiens se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions en battant les Allemands de Leipzig 3-0. Le bonheur pour les supporters du PSG privés de stade, Covid oblige, et forcés de suivre le match à distance. Le reportage à Paris de Sarah Loubacouche.
Des étreintes, des larmes et beaucoup de cris au coup de sifflet final, les supporters parisiens expriment leur joie qui fait trembler les tables de ce bar de l'est de la capitale.
Finale !
Antonin est fier d'avoir assisté à cette qualification inédite.
On est en finale ! Match bien mené par l'équipe, on a bien résisté sur la fin. J'ai pas trop de mots, c'est exceptionnel. C'est la première fois.
Pour Issiaka, cette victoire, c'est aussi la fin d'une série de désillusions.
Avant le match, j'étais un peu sceptique. Généralement, quand le PSG est favori, c'est parce que toujours des choses improbables. Je suis pas là pour la finale, je suis en vacances avec ma copine. Je vais pas dire trop fort, je suis un peu dégoûté, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'il faut le vivre à Paris.
Théo, lui, pourra bien regarder la finale dans un bar de la capitale.
Ce soir, on a été absolument excellent. En tant que supporter parisien, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma plus belle émotion. Et j'attends avec impatience cette finale. On a complètement les armes pour la remporter.
Un seul regret chez les supporters lors de cette soirée exceptionnelle, ne pas pouvoir aller au stade pour assister à cette finale historique.
Pas de miracle en revanche mercredi soir pour Lyon dans l'autre demi-finale de la Ligue des Champions. L'OL s'est incliné 3-0 face aux favoris de la compétition, le Bayern Munich. PSG-Bayern, finale alléchante de la Ligue des Champions, à suivre en direct sur RFI demain soir à 19h, temps universel. Mathieu Magnodex, dans votre livre, il y a un chapitre très intéressant intitulé « Le pouvoir des histoires », le fameux storytelling, un art que les Américains maîtrisent à la perfection. Alexandria Ocasio-Cortez y a recours dans ses discours qu'elle écrit elle-même ou quand elle s'adresse à ses presque 6 millions de followers sur Instagram. Mais chercher à atteindre les gens par le biais des émotions, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la réflexion politique? Est-ce que ce n'est pas un moyen de piéger les électeurs?
Alors, il y a vraiment des différences dans ce qu'on peut faire avec le storytelling. D'abord, en effet, faire du storytelling, raconter des histoires, ça permet c'est notre expérience avec les récits, les mythes et les contes depuis très longtemps, ça permet de rentrer directement en communication avec les gens dont on parle, et évidemment les politiques, mais aussi la publicité, tout type de d'industrie comme ça ont très bien su exploiter ça. Donc ça, c'est tout simplement un muscle, une capacité de la nature humaine d'être ému par des histoires, d'être touché, et d'être en résonance avec les récits des gens, et ça crée de la proximité. Et pour le cas des activistes, de la mobilisation. Mais en effet, si on raconte juste des histoires creuses, ou si on raconte juste de belles histoires qui, derrière, n'ont pas de conséquences, ne sont pas faites pour changer véritablement la vie, en effet, on est sur... c'est ce que fait la publicité, c'est ce que fait encore une fois certains politiques. En l'occurrence, l'utilisation que réfléchit des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez, mais aussi d'autres gens qui pensent un petit peu cette question de comment, finalement, intéresser les gens à la politique, comment les faire venir dans les mouvements, comment les faire voter, mais pas uniquement les faire voter, c'est-à-dire comment les faire voter avec, quand ils mettent le bulletin dans l'urne, la certitude que ça va changer, ce qui est quand même une grande question, et que moi, en tant que garçon de 40 ans, j'ai jamais vraiment connu dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais vraiment connu, parce que j'ai pas connu cette grande folie qu'on me rappelle, qui était l'élection de Mitterrand, soi-disant, pour des gens de gauche, en 1980, j'étais tout petit, quoi, en 81. Donc, j'ai pas connu ça, jamais dans ma vie, cette espèce d'enthousiasme à voter. Et plein de gens sont comme moi, et les plus jeunes que moi ont encore moins vécu ça. Et donc, du coup, ils se posent la question de dire comment on fait pour non seulement faire que les gens votent, s'engagent dans des mouvements, mais aussi ne soient pas trompés derrière. Et donc, c'est toute l'idée de développer, de raconter d'abord des histoires qui parlent aux gens, mais aussi de leur dire... Oui, si on est élu, on fera vraiment ça. On fera vraiment ça. On fera vraiment, dans le cas des Américains, le Green New Deal. On fera la sécurité sociale universelle. On le fera vraiment. Et c'est très important pour une dernière chose que j'ajoute, c'est que, en fait, nous vivons tout le temps, toute notre vie dans des histoires qui sont des histoires, en gros, pour aller très vite, du néolibéralisme. C'est-à-dire que, on nous raconte de la guerre de tous contre tous, que si on baisse les impôts des plus riches, ça va profiter à tout le monde. Il y a plein d'histoires comme ça, qu'on nous raconte, que tout le monde est assisté et que, du coup, c'est un gros problème pour la société. On nous raconte plein d'histoires qui nous opposent les uns contre les autres. Et le grand pari de personnalités politiques comme Ocasio, mais aussi de gens qui gravitent dans son mouvement, c'est de dire, en fait, ça ne sert à rien de nous opposer les uns contre les autres, parce qu'en fait, en vrai, ils regardent les choses un peu différemment. Ils disent plutôt, il y a quand même une petite partie de la population qui capte quand même pas mal de richesses, notamment, et les autres, on barbote, on se débrouille, en fait. Et essayons plutôt de faire en sorte que ces gens-là, qui sont plus nombreux, constituent la coalition politique de demain. Donc c'est leur pari. Je sais pas si ça marchera, mais on a un peu envie d'y croire.
Merci beaucoup Mathieu Magnodex d'avoir été notre invité. Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains. C'est paru aux éditions La Découverte. Une semaine d'actualité revient samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Tout à l'heure.